RFI, il est 21h en temps universel, 23h à Paris, c'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
Pas de pourparlers de paix directe entre Russes et Ukrainiens, mais finalement à la place des réunions trilatérales qui se tiendront ce vendredi à Istanbul. Et pas de grandes attentes, comme vous l'entendrez dans ce journal avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce jeudi aura plutôt été marqué par un échange d'invectives de part et d'autre. Dans l'actualité aussi, 120 morts dans des bombardements israéliens dans la bande de Gaza, une situation humanitaire catastrophique et un territoire que veut prendre Donald Trump pour en faire, je cite, une zone de liberté. L'Inde et le Pakistan prolongent leur cessez-le-feu jusqu'à dimanche. Il est fragile, comme vous l'entendrez, avec notamment deux pays qui s'accusent mutuellement de ne pas bien contrôler leur arsenal nucléaire. Et le réseau TikTok menacé d'une amende salée de la part de l'Union européenne en cause un manque de transparence dans la publicité en ligne. C'est finalement demain que se tiendront à Istanbul non pas des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, mais plutôt des réunions trilatérales avec d'un côté Turcs, Américains et Ukrainiens et de l'autre côté Turcs, Américains et Russes. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir le ministère turc des Affaires étrangères, ajoutant qu'il n'est pas certain qu'une réunion se tiendra avec les quatre parties autour de la même table. Ce jeudi aura donc été une journée d'attente, de déclarations dans tous les sens et de noms d'oiseaux échangés. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio confie ne pas avoir de grandes attentes dans ces pourparlers.
J'espère que ces discussions auront lieu entre l'Ukraine et la Russie, en présence de nos homologues turcs, ainsi que d'un membre ou de plusieurs membres de notre équipe au niveau approprié. Mais je veux être franc, je ne pense pas, nous n'avons pas de grandes attentes quant à ce qui se passera demain. Et franchement, à ce stade, je pense qu'il est tout à fait clair que la seule façon de parvenir à une avancée décisive est que le président Trump et le président Poutine se rencontrent. Il faudra un engagement à ce niveau pour faire avancer les choses. Je ne pense pas que quoi que ce soit de productif puisse se produire à partir de maintenant, tant qu'ils n'auront pas eu une conversation très franche et directe. Ce que le président Trump est prêt à faire, je le sais.
Donald Trump qui a effectivement déclaré, je cite, « Rien ne se passera tant que Vladimir Poutine et moi ne serons pas ensemble ». Volodymyr Zelensky, qui ne se rendra pas à Istanbul, a envoyé une délégation sur place et accuse Moscou de ne pas prendre ces discussions au sérieux, qualifiant de pure façade la délégation russe emmenée par un conseiller de Vladimir Poutine. Le président ukrainien qui en échange a été traité de clown par la diplomatie russe. Plus d'une centaine de morts, 120 exactement, ce jeudi dans de nouveaux bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Le nord et le sud ont été particulièrement visés. L'Organisation mondiale de la santé indique de son côté que le dernier hôpital de Gaza fournissant des soins cardiaques et de cancérologie a cessé de fonctionner suite à une attaque israélienne. Des services vitaux sont interrompus et ne sont pas disponibles ailleurs dans le territoire. Concernant l'aide humanitaire bloquée depuis le 2 mars, une ONG soutenue par les États-Unis se dit prête à distribuer de l'aide à Gaza d'ici la fin du mois. Plusieurs organisations affirment que les 2,4 millions d'habitants sont menacés d'une famine de masse. Et cette nouvelle sortie de Donald Trump, le président américain affirme vouloir que les États-Unis prennent la bande de Gaza pour en faire, je cite, une zone de liberté. Le président américain qui poursuit sa tournée dans le Golfe avec de gros contrats au passage. Il était au Qatar ce jeudi avec une commande de 200 milliards de dollars pour l'avionneur américain Boeing. Il se rend à présent en Arabie Saoudite où il a d'ores et déjà récolté une promesse de 1400 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Par ailleurs, Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord sur le nucléaire. Quatre cycles de discussions sur le nucléaire iranien ont eu lieu ces dernières semaines et l'Iran serait prêt à accepter un accord en échange de la levée immédiate des sanctions. Le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan prolongé jusqu'à dimanche, c'est ce qu'affirme ce jeudi Islamabad après 48 heures de discussions entre les deux armées. Samedi dernier, les deux puissances nucléaires avaient conclu un accord de paix après la confrontation militaire la plus grave de ces deux dernières décennies. Mais Pierre-Olivier, même s'il est prolongé jusqu'à dimanche, ce cessez-le-feu semble pour le moins fragile.
Pas un jour sans provocation verbale ou menace entre les deux pays. Ce jeudi, New Delhi a confirmé la suspension du traité de partage des eaux avec le Pakistan, un accord signé en 1960 qui interdit à l'Inde de détourner l'eau des fleuves qui coulent de son territoire vers le Pakistan. Une manne vitale pour Islamabad que New Delhi a donc pour l'instant décidé de conditionner pas de retour au traité tant que le Pakistan n'arrêtera pas, je cite, son soutien au terrorisme transfrontalier. Autre point de tension, les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas suffisamment bien contrôler leur arsenal nucléaire. L'un et l'autre demandent à l'Agence internationale de l'énergie atomique de plus surveiller et de se pencher sur la gestion des armes de son voisin. Enfin, lundi dernier, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est adressé à la nation, l'index levé, menaçant, rappelant que ses armées restaient en état d'alerte maximum. Quelques heures après son intervention, réponse du Pakistan avec des mouvements de drones observés au-dessus du Cachemire. Les tensions semblent donc pour l'instant bien loin d'être terminées.
Pierre-Olivier pour RFI. Les émissions de CO2 ont baissé en Chine au premier trimestre. C'est ce que révèle une étude publiée ce jeudi. Recul de 1,6% comparé au premier trimestre de l'an dernier. Et ce, malgré une demande d'électricité en forte progression. Le géant asiatique, le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, a massivement investi dans les énergies renouvelables ces dernières années. Aux États-Unis, la Cour suprême se penche sur le droit du sol, un droit protégé en principe par la Constitution, mais sur lequel Donald Trump veut revenir. Le président américain avait signé un décret, aussitôt suspendu par les tribunaux. La question est donc aujourd'hui devant la plus haute cour du pays. Les avocats des deux camps défendent en ce moment même leur position, mais en arrière-plan, Lubna Anaki, c'est en réalité le pouvoir judiciaire qui est visé par l'administration Trump.
L'administration Trump le sait, remettre en question directement le droit du sol pourrait s'avérer compliqué devant la Cour suprême, étant donné que ce droit est protégé par le 14e amendement. Chose qui, au passage, n'a pas empêché Donald Trump de signer quand même un décret dès son arrivée au pouvoir pour limiter ce droit, invoquant une interprétation différente du texte de la Constitution. Mais devant les 9 juges de la Cour suprême, c'est une autre question qui est en jeu. Un tribunal de l'Ohio, de Californie ou de New York peut-il suspendre unilatéralement une décision du président Trump ? Les enjeux vont donc bien au-delà de la simple question du droit du sol, car on le sait bien, l'omnipotence des juges agace Donald Trump, qui n'hésite pas à menacer ceux qui osent s'opposer à lui. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la justice a bloqué au moins une quarantaine de ses décisions. Si la Cour suprême lui donne raison, les juges perdraient donc cette capacité de blocage universel, un contre-pouvoir que beaucoup estiment nécessaire, surtout sous la présidence du milliardaire. Sauf surprise, la Cour suprême devrait rendre sa décision fin juin, début juillet. Lubna Anaki, New York, RFI.
Le Canada, touché par les premiers grands incendies de la saison, plus de 90 feux sont actuellement actifs. 260 000 hectares ont déjà brûlé. 1000 habitants ont dû être évacués dans le centre et on compte 2 morts. En cause, une sécheresse extrême et des vents violents qui n'arrangent rien. TikTok est de nouveau dans le viseur de la Commission européenne. Cette fois-ci pour un manque de transparence dans la publicité en ligne. La Commission européenne a estimé ce jeudi que l'usage de ces publicités pourrait ne pas être conforme aux réglementations européennes et ouvre la voie à une sanction financière contre le puissant réseau social qui compte 1,5 milliard de membres. TikTok qui pourrait écoper d'une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Anne Verdaguet.
Cette menace de sanction fait suite à une enquête ouverte en février 2024 par l'exécutif européen qui estime que TikTok ne fournit pas les informations nécessaires concernant le contenu des publicités sur son réseau social, mais aussi concernant les utilisateurs ciblés par celle-ci ou encore l'identité de ceux qui financent ces campagnes. Cela pourrait contrevenir à l'intégrité de certaines élections, mais aussi mettre en danger la santé publique et exposer les consommateurs aux publicités frauduleuses, explique la commissaire européenne chargée de la souveraineté technologique. Les citoyens ont le droit de savoir qui se cache derrière les messages qu'ils voient, estime-t-elle. L'Europe, mais aussi les États-Unis, s'inquiètent de l'impact de TikTok sur la santé mentale des enfants, mais aussi de son influence sur le débat public ou encore les intentions de vote. Une procédure a notamment été ouverte par la Commission européenne suite à l'élection présidentielle en Roumanie en 2024. La plateforme chinoise pourrait avoir manqué à ses obligations et laissé la porte ouverte à de possibles manipulations russe.
Anne Verdaguet pour Radio France Internationale. En France, Nicolas Sarkozy s'est vu retirer son bracelet électronique. Il le portait depuis un peu plus de 3 mois et sa condamnation à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des écoutes. La justice lui a accordé une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, comme le permet la loi. Il doit toutefois se soumettre à des obligations, comme une autorisation pour tout déplacement de plus de 15 jours. Même chose s'il souhaite se rendre à l'étranger. Nicolas Sarkozy devra aussi répondre aux convocations des services de justice. Allez, du football pour terminer et le match du titre, peut-être ce soir, peut-être oui, pour le FC Barcelone. En tout cas, c'est bien parti. Le derby se joue en ce moment même entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Et le Barça, on en est à la 81e minute. Le Barça mène 1-0. En cas de succès, le leader du championnat devant le Real Madrid peut mathématiquement être sacré champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Voilà pour votre journal sur RFI.